Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Bienvenue sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?» spéciale élections européennes, en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Nous recevons avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, les principaux candidats pour ces élections européennes du 26 mai. Et nous avons avec nous Thierry Mariani, qui est numéro 3 sur la liste Rassemblement National, conduite par Jordan Bardella. Bonjour.
Bonjour.
Et donc, la première question d'une série qui concernera essentiellement les enjeux internationaux pour Arnaud Benedetti.
Thierry Mariani, bonjour.
Bonjour.
Une première question, j'allais dire, d'ordre national. Finalement, il y a peut-être un point d'accord que vous avez avec le président de la République, le clivage qu'il propose entre les progressistes dont il se fait héros et puis les populistes, comme il vous désigne. D'ailleurs, vous nous direz si vous vous considérez comme un populiste. Est-ce que c'est un clivage qui finalement vous arrange ?
Je pense que c'est un clivage qui correspond de plus en plus à la réalité. Le clivage gauche-droite est en train de disparaître. Le Parti Socialiste est mal en point, c'est le moins qu'on puisse dire. Quant à la droite, elle est tiraillée, on le voit très clairement pour les LR, entre Macron et le Rassemblement National. Donc oui, je pense que les cartes sont en train de se redistribuer parce que en réalité, Macron a recréé une sorte d'extrême centre qui attire les partis molles, on va dire, de la gauche et de la droite.
Alors, est-ce que vous vous considérez comme populiste, justement ?
J'ai jamais considéré ça comme un gros mot. Je veux dire, ça fait partie de ces mots qui sont diabolisés, etc. Si populiste, c'est écouter le peuple, essayer de rendre et donner le pouvoir au peuple, pourquoi pas. Mais, vous savez, nationaliste, c'est considéré aussi comme un gros mot. Moi, je me considère comme français, attaché à mon pays, patriote. Et puis, j'aime l'Europe aussi, mais j'ai envie d'une Europe qui soit un peu plus indépendante et un peu plus au service des citoyens.
Alors, vous avez, comme nous, suivi l'interminable feuilleton du Brexit qui a marqué les esprits ces derniers mois. Personne ne connaît la fin de l'histoire. Quelle est votre position sur ce sujet ? Faut-il imposer des conditions dures à la Grande-Bretagne ? Continuer à négocier avec les Britanniques une sortie, on va dire, plus douce ? Et puis, d'une manière plus générale, est-ce que vous avez le sentiment que cette séquence politique sert les positions politiques qui sont les vôtres, c'est-à-dire de plutôt essayer de prendre des distances avec l'Union européenne ? On voit bien que pour un pays qui n'était pas d'ailleurs dans la zone euro et donc qui n'avait pas des liens les plus solides, et qui n'était pas le plus solidement arrimé à l'Union européenne, ça dure maintenant depuis des mois et des mois.
Vous l'avez dit à juste titre, pour moi, les Anglais avaient un pied seulement dans l'Europe. Ils n'étaient pas dans la zone euro, ils n'étaient pas dans la zone Schengen. Ils avaient négocié du temps de Thatcher une sorte de retour de leur dotation, parce qu'ils donnaient plus, comme la France d'ailleurs, que ce qu'ils recevaient. Cet épisode attire pour moi trois réflexions. La première, d'abord, c'est que les Anglais ont choisi. Voilà. Je veux dire, est-ce qu'il faut qu'ils sortent ou pas ? Les Anglais ont choisi, il y a eu un référendum, point final. Quoi. Le rôle du gouvernement britannique, c'est de respecter ce référendum. Deuxièmement, le scrutin européen en Grande-Bretagne sera très intéressant. Parce qu'on a l'impression, quand on écoute les médias français, qu'en réalité, depuis un an et demi, tout va mal en Grande-Bretagne et que les Britanniques regrettent leur vote. Or, excusez-moi, mais la Grande-Bretagne a pour le moment un taux de croissance supérieur, un chômage qui n'a jamais été aussi bas, et les salaires viennent d'augmenter. Les salaires les plus bas n'ont jamais autant augmenté, parce que justement l'immigration diminue. Et enfin, c'est surtout ça qui m'intéresse, dans deux semaines, il semblerait, parce que je me méfie toujours des sondages, que ce soit les partis pro-Brexit, entre guillemets, qui soient largement en tête aux européennes. C'est-à-dire, je dis ça entre parenthèses, pour tous ceux qui nous ont bassinés depuis un an et demi, que les Anglais regrettaient leur référendum, c'est une immense baffe. Troisièmement, je pense qu'il faut leur imposer des conditions justes, voilà. Rien n'est prévu dans les traités, vous le savez, pour qu'on sorte de l'Union européenne. C'est en quelque sorte d'ailleurs en ça que c'est un peu surprenant. Dans un traité, on peut toujours rentrer et sortir. Et donc, c'est une première. Il est évident que l'Union européenne ne fait rien pour faciliter les choses, parce que si c'était trop facile, d'autres États seraient tentés. Non, voilà, je pense qu'il faut des négociations justes. Moi, j'ai pas envie que les intérêts français du reste des Européens soient lésés, mais j'ai pas envie aussi qu'on fasse payer les Anglais de leur choix. Et enfin, une quatrième réflexion, si vous voulez, pour nous, je rappelle quand même qu'au Rassemblement National, la position vis-à-vis de l'Europe, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint cette liste, c'est pas du tout de quitter l'Europe, c'est de changer la direction de l'Europe. Voilà, on peut aimer la France sans aimer Macron, on peut aimer l'Europe sans aimer Juncker, et on peut aimer plutôt une autre politique. Voilà. Donc, on n'est plus du tout sur une position Brexit ou Frexit qu'on laisse à certains.
Alors justement, vous avez parlé de changer l'Union européenne. On connaît les critiques du Rassemblement national sur les dysfonctionnements de l'Union européenne, sur la technocratisation de l'Union européenne. On connaît moins et on voit moins finalement le projet, l'architecture que vous souhaitez pour cette Union européenne. Alors est-ce que vous avez quelques pistes que vous pouvez nous dresser ?
Bien sûr.
Ce matin,
on a une architecture, j'allais dire, autour de trois points. Le premier, c'est d'abord une union des nations. Voilà, notre modèle, si vous permettez, c'est plutôt Airbus qu'une directive imposée à différents pays. Pourquoi je dis Airbus ou Ariane ? Parce qu'en réalité, c'est des projets entre États européens qui se sont mis d'accord pour créer Airbus ou Ariane. Et on voit que ça marche. On est 28. Aujourd'hui, franchement, entre certains pays et d'autres, il y a un fossé économique, il y a un fossé de développement. Vouloir tous avancer à marche forcée, c'est impossible. Donc je crois qu'il faut avoir une certaine souplesse. Voilà pourquoi, nous, première chose, on veut une Europe des nations. Deuxièmement, on veut favoriser le juste échange. Depuis des années, on signe à tout va des traités de libre-échange. Et l'Union européenne est aujourd'hui l'espace économique qui est le plus ouvert au monde. On est ouvert à tout le monde, même si les gens se ferment devant nous. Ce qu'on veut tout simplement, c'est être ouvert à ceux qui respectent les mêmes conditions que nous, sociales, les mêmes conditions environnementales, les mêmes conditions, par exemple, de sécurité sanitaire. Comment on impose à nos agriculteurs certaines choses et on importe des produits de pays qui respectent strictement rien parce qu'on ne peut pas le contrôler. Et dernière chose, pour faire très simple, on est attaché au localisme. Le localisme, c'est privilégier tout ce qui peut être circuit court. Je vous prendrai un exemple très concret. Hier soir, si je suis allé acheter au drugstore Publicis une bouteille d'eau, j'ai acheté une bouteille d'eau Fidji. Packaging était joli. Et j'ai pas réalisé qu'elle venait vraiment du Fidji. Et en la buvant, je me disais, mon Dieu, le bilan carbone de cette pauvre bouteille qui vient du Fidji. Voilà, ben, il y a des moments, peut-être, on peut avoir des taxes différentes si on vient de Fidji ou si on vient de Vittel ou d'Evian. C'est le bon sens, c'est écologique et d'autre part, c'est favoriser le localisme.
Et vous avez dû la payer cher, cette bouteille.
Oui, de toute façon, l'heure où j'ai acheté, l'endroit où j'ai acheté, c'est jamais donné.
Alors, vous avez évoqué effectivement l'Union des Nations. Plusieurs questions à partir de ça. D'abord, est-ce que vous savez dans quel groupe vous siégerez demain si vous êtes élu au Parlement européen ? On sait qu'il existe des divergences entre les souverainistes de chaque pays et qu'à chaque scrutin européen, on voit Marine Le Pen essayer de faire des alliances. Et que ça n'a jamais été simple. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu, je crois, un seul groupe qui rassemblait tous les partis souverainistes.
Deux choses. En réalité, il y a deux blocs souverainistes parce qu'il y a deux traditions au sein de l'Europe. Si on fait les choses simplement, il y a l'Europe du Sud et l'Europe de l'Est. L'Europe du Sud et l'Europe de l'Est en sont différents sur deux points clés. D'abord, en politique étrangère. En France, la dernière fois que les Russes ont occupé Paris, c'était en 1815. En Pologne, dans les pays baltes, c'est hélas pour eux beaucoup plus récent. Et donc en réalité, c'est vrai qu'en matière de politique étrangère, on n'a pas le même ressenti. Si j'écoute M. Salvini, Mme Le Pen, on veut des relations normales avec les Russes. Si j'écoute les Polonais, les Estoniens, les Lituaniens, ils se méfient des Russes. Et je les comprends. Deuxième grande différence, ben chacun défend ses intérêts. La directive travailleurs détachés, il est évident que ça favorise plutôt les Polonais, les Estoniens ou les Lituaniens, que j'adore, hein, j'ai rien contre eux.
Ou les Roumains.
Ou les Roumains, ou les Bulgares, que les Français, les Italiens ou les Autrichiens. Voilà. Ça, c'est les deux grandes différences. Et donc maintenant, j'en viens à votre réponse. Avant, enfin, jusqu'à présent, les nationalistes, les populistes, les patriotes, etc., sont dans deux groupes. Les noms vont probablement changer. Pourquoi ? Parce que ça correspond justement à ce que je vous disais. Demain, est-ce qu'on aura du mal à faire un groupe ? Absolument pas, parce que les choses ont changé. Vous savez très bien que, par exemple, un vendredi, je serai avec Marine Le Pen à Rome, où nos alliés italiens, autrichiens, etc., ont déjà décidé de faire avec nous ensemble un groupe solide. Donc, au pire, on sera 80, au mieux, on peut être 120. Au pire, il y aura deux groupes, au mieux, on peut avoir un seul groupe. Comment on pourrait avoir un seul groupe si effectivement on arrivait à faire la jonction entre, j'allais dire, l'Europe de l'Est, les souverainistes de l'Est et les souverainistes du Sud, pour faire simple. Voilà. Est-ce que c'est possible ? Ce sera difficile. Mais est-ce que c'est possible ? Je le pense et ça va dépendre des résultats. Vous savez que les élections ont lieu le 26 mai, mais en réalité, l'Assemblée européenne siège le 1er juillet. alors qu'en Assemblée nationale, par exemple, il y a un délai de 2 jours. Et donc, en réalité, pendant ce mois-là, ça va être le mois pour essayer de faire un groupe unique en ce qui nous concerne. Voilà. Si on n'y arrive pas, c'est dommage, mais sur l'essentiel, on votera la même chose. Et cette fois, par contre, nous sommes assurés d'avoir, quoi qu'il arrive, un groupe qui, même dans l'hypothèse où les souverainistes seraient divisés en deux, d'au minimum 80 députés, si on est unis, on peut être le deuxième, voire le troisième groupe du Parlement européen et arriver à infléchir les choses.
Je voudrais revenir sur la question de l'euro. Bon, la sortie de l'euro n'est plus à l'ordre du jour du Rassemblement national, donc finalement vous vous intégrez dans cette logique-là, mais comment finalement on arrive à concilier le maintien de l'euro et un souverainisme qui, de fait, de toute façon, ferait fi de tout ce qui relève des convergences, notamment des convergences budgétaires et fiscales et sociales. Comment on arrive à résoudre cette contradiction ?
L'euro, la position d'abord du Rassemblement national, vous l'avez dit sur l'euro, est claire, c'est on garde l'euro, mais on veut infléchir l'euro. Qu'est-ce qu'on reproche à l'euro ? On reproche 3 choses. C'est d'avoir été, depuis le début, géré avec une seule préoccupation, qui est la lutte contre l'inflation. Deuxièmement, c'est une réussite médiatique et pratique, c'est un échec économique. C'est une réussite médiatique et pratique parce que c'est sûr que quand on va en Belgique ou en Italie ou ailleurs, on est content, on n'a pas de changement de monnaie. Quand je dis que c'est un échec économique, on est la zone du monde qui, ces 15 dernières années, a connu la plus faible croissance. Voilà, la plus faible croissance. Quand on regarde en Afrique, en Asie, en Amérique, les croissances sont extrêmement plus importantes qu'en Europe. Donc en réalité, ce qu'on veut tout simplement, quand on dit réorienter l'euro, c'est d'avoir une réorientation un peu comme la Fed américaine, qui soit aussi dirigée vers la croissance. Moi, je considère que avoir un peu d'inflation, c'est pas dramatique. Que si on regarde les 30 glorieuses, et notamment les années 70, c'était une époque où la France avait une inflation relativement forte. Sans aller jusque-là, avoir une inflation à quelques pourcents de plus, si ça fait monter la croissance et le niveau de vie des Européens, pourquoi pas. Donc avec nos amis italiens, autrichiens et d'autres, on souhaite que l'euro soit réorienté vers cette croissance, quitte à déplaire un peu à nos amis allemands. Le problème de l'Union Européenne aujourd'hui, c'est que c'est de plus en plus une union allemande, avec les Allemands qui imposent leur vue économique, qui imposent leur vue politique, et j'adore les Allemands, mais on n'est pas obligé de suivre aveuglément ce qu'ils veulent.
Mais justement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de renverser cette tendance qui fait que le sentiment dominant, effectivement, c'est que l'euro est un outil au service de la croissance allemande et qu'il y a une prépondérance de l'Allemagne sur les choix politiques et monétaires de l'Union européenne ?
Il faut changer les statuts de la BCE, il faut lui donner d'autre part une autre orientation. Moi, je dis très clairement, je suis pour que la BCE
soit dépendant du pouvoir politique.
Bien sûr, voilà. C'est quand même extraordinaire. On a une commission qui ne dépend pas du pouvoir politique, avec une banque qui ne dépend pas du pouvoir politique, et si vous me permettez, les politiques qui prennent les coups. Voilà, il y a quand même un moment... Moi, je fais partie des imbéciles qui pensent que les gens doivent pouvoir...
Sauf que vous avez l'Allemagne qui s'y oppose.
Comment ?
Sauf que vous avez l'Allemagne qui s'y oppose.
Mais peut-être aussi que les 27 autres États peuvent peser un peu, voilà. On n'est pas, je le répète, on n'est pas dans une Europe allemande et en clair, on explique aux Français là, que dans 15 jours, ils vont voter, mais la Commission, c'est pas eux, la Banque, c'est pas eux, et pourtant, voilà. Donc, on veut un peu de démocratie.
Et plus de pouvoir pour le Parlement européen ?
Et plus de pouvoir pour le Parlement européen, vous avez raison, parce que c'est un Parlement qui est privé d'un des pouvoirs essentiels de tout Parlement, c'est-à-dire le pouvoir d'initiative. Aujourd'hui, il faut que les auditeurs comprennent qu'en réalité, au Parlement français, n'importe quel député ou sénateur peut proposer une loi. Ça passe pas, on a plus de chances quand on est dans la majorité, mais on peut proposer une loi. Au Parlement européen, vous pouvez pas. Vous devez attendre que les amis de M. Juncker fassent une proposition et après vous pouvez dire si vous l'acceptez ou la refusez. Donc on veut tout simplement que ce qu'on appelle le pouvoir d'initiative soit partagé entre la Commission et le Parlement. On veut un vrai Parlement, c'est révolutionnaire.
Alors je voudrais revenir sur la question de l'élargissement maintenant. Bon, l'élargissement ça a été quand même un facteur de moins-disant social, indéniablement, dans l'histoire de l'Europe de ces 20 dernières années. Quid de votre position par rapport à l'élargissement de l'Union européenne à la Serbie ?
Aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter tout élargissement pendant une période où on redéfinit un peu qui fait quoi et où on se réorganise. Voilà. J'adore la Serbie. Je pense qu'il faut des accords particuliers avec la Serbie. Mais faire un élargissement de plus, ça me semble difficile. De surcroît, vous savez très bien que... la Serbie seule, c'est impossible. Parce que comme d'habitude, certains vont nous dire « Ah oui, d'accord, la Serbie, mais c'est un package. Serbie, Macédoine... » Kosovo et pourquoi pas aussi Bosnie-Herzégovine. Donc voilà, c'est-à-dire en clair, toute l'ex-Union soviétique, l'ex-Yougoslavie, voilà, excusez-moi. Et donc non, je suis pas d'accord. En plus, je me permets de vous faire remarquer que ça aboutirait quand même à cette situation savoureuse, c'est que la France aurait un seul commissaire et l'ex-Yougoslavie en aurait 6 ou 7, si je sais à peu près compter, puisque j'ai oublié le Monténégro et la Croatie et la Slovénie, ils sont déjà dedans. Donc, faut arrêter le... Non, on arrête tout élargissement, on fait le point, on revoit s'il faut modifier les statuts, les statuts et les traités de l'Europe, et après, on verra.
Et au niveau de la Méditerranée, quelle est la position du Rassemblement national ? On a déjà quelques informations à ce sujet, mais par rapport à la gestion de la crise des migrants, vous êtes plutôt pour le retour aux frontières nationales. Pourtant, on voit bien que la question sur les migrations, c'est plutôt les frontières européennes, c'est-à-dire aider la Grèce, aider l'Italie, voire l'Espagne à gérer cette problématique.
Trois choses. Je pense qu'il faut qu'on retrouve une grande politique, africaine, méditerranéenne. Mais c'est lié, soyons honnêtes. Nicolas Sarkozy avait essayé de le lancer. Ça n'a pas marché.
La Méditerranée.
Voilà, ça n'a pas marché, mais l'idée était bonne. Parce qu'en réalité, on sait très bien que le problème, ce n'est pas de savoir si on les arrête avant, après, la mer, pendant la mer, etc. Le problème, c'est que les gens vivent heureux chez eux. On ne quitte jamais son chez-soi avec plaisir, surtout quand on prend des risques. Donc, la première chose à faire, c'est faciliter le développement de l'Afrique en essayant de faire en sorte qu'il favorise, que l'argent donné favorise vraiment le développement et pas la corruption. Ce devrait être, à mon avis, une priorité, la priorité même de l'Europe pour contrer l'immigration. Parce que depuis des années, on parle de l'immigration, puis on dit « Ah oui, il faut favoriser le développement ». Mais c'est une figure de style à la fin d'un discours, et c'est jamais vraiment suivi des faits. Ensuite, je pense que sur l'immigration, il faut le message médiatique qui passe est plus fort que tout. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous le savez, j'ai été député des Français de l'étranger. Qu'est-ce qui s'est passé en Australie ? Moi, j'ai été fasciné par ce qui s'est passé en Australie. À un moment, ils avaient la même chose. Ils avaient des vagues de bateaux qui arrivaient, des pauvres gens qui mouraient en mer. Du jour au lendemain, ils ont dit « Vous accostez plus ». Ils prenaient les bateaux, ils allaient les mettre sur une autre île du Pacifique.
Alors, c'est vrai que,
comment ?
Noé.
Palaos, etc. C'est dur comme réponse, mais ça a été efficace. C'est-à-dire que, un, il n'y a plus
mais
de mort en mer.
Île.
Oui,
on
c'est
va
une île.
Rétocter.
Bien sûr. Mais regardez ce qui se passe en Italie aujourd'hui. Le message italien est très clairement passé. Quand on prend les routes maritimes aujourd'hui, on voit qu'il n'y a quasiment plus aucun bateau qui va en Italie parce que les gens ont compris le message. Moi, je regarde un site toujours qui est le site des Nations Unies sur les réfugiés. Inattaquable. Si vous allez sur ce site, vous voyez désormais deux ronds, un rond en Turquie, un rond en Espagne, et puis depuis le début de l'année, selon les Nations Unies, 824 réfugiés arrivés en Italie. Ils étaient plus de 20 000 l'année dernière à la même époque. Voilà, le message est très fort. Donc je pense que le premier message à passer, c'est de dire on n'accoste plus illégalement. On doit traiter vraiment les réfugiés politiques, mais je pense qu'on doit passer des accords avec d'autres pays sur les marges de l'Europe, par exemple, soit au Maghreb, soit dans les Balkans, où on traite les demandes d'asile politique.
Et le projet de Matteo Salvini de criminaliser les gens qui viendraient en aide aux bateaux qui sont en détresse ?
C'est toujours délicat. Ça, c'est un projet italien, c'est pas un projet français.
Certes, mais nous parlons des élections européennes.
Oui, mais il y a déjà, je vous rappelle, dans la loi française que vous connaissez aussi bien que moi, il y a déjà des dispositions qui criminalisent l'aide aux clandestins. Après, c'est toujours délicat de savoir quand vous aidez quelqu'un parce qu'il a soif ou quand vous aidez quelqu'un parce qu'en sous-main, il vous a donné de l'argent. Voilà. C'est évident que pour moi, ceux qui font un bénéfice de ces traites sont des criminels. Ceux qui font une aide humanitaire sont des gens dont je ne partage pas toujours les convictions, mais que je peux comprendre. Après, l'aide humanitaire, c'est quoi ? C'est donner à manger ou c'est aider à passer un col ? C'est là où toute la différence.
Toujours dans le prolongement de cette question, il y a quand même des déterminants économiques aux migrations, ce sont des déterminants extrêmement importants. Quelle est votre politique en matière d'aide économique, notamment aux pays qui sont pourvoyeurs de migrants ?
Je crois qu'il faut essayer de voir avec eux comment on peut favoriser tout projet créateur d'emplois et de développement, voilà. Et avoir surtout dans ces pays, dont je connais une bonne partie d'entre eux, un système de gestion des projets qui évite toute corruption. On sait très bien que, malheureusement, y compris la France, quel que soit le gouvernement, pendant des années, on a aidé des pays pour avoir, entre guillemets, des alliés politiques. Alors, on se donne bonne conscience en les aidant financièrement, mais on sait très bien que l'argent ne va pas toujours au bon endroit. Voilà. Donc, en réalité, l'Europe dépense des sommes qui ne sont pas phénoménales, d'ailleurs. J'ai regardé, parce que c'est l'une des commissions qui m'intéresse, je vous dirais franchement. Pas phénoménal sur, le développement des pays africains.
La coopération.
Mais en réalité, c'est un peu... on donne, et puis après, la manière dont c'est utilisé, c'est souvent à revoir. Voilà.
Une toute dernière question. La relation à la Russie, comment vous voyez l'organisation de cette relation, et est-ce que pour vous, l'Europe, c'est de l'Atlantique à l'Oural, comme le disait le général de Gaulle?
Pour moi, je crois à l'Europe que de l'Atlantique à l'Oural, même, vous savez, on peut aller jusqu'à Vladivostok. Mais non, je pense que la Russie, c'est un partenaire comme un autre. Voilà, on a un allié historique qui sont les États-Unis. Mais notre meilleur allié historique, c'est aussi notre pire concurrent économique. Voilà, on a vu avec Alstom, aujourd'hui, nos turbines de centrales nucléaires dépendent des Américains parce que M. Macron a cédé aux Américains. Donc, moi, je crois qu'on a des intérêts communs avec les Russes. Moi, je crois à une politique gaulliste. Vous avez fait référence, d'ailleurs, à une citation du général. Eh bien, je pense qu'en réalité, on doit être entre les deux. C'est d'ailleurs notre position géographique. On a des intérêts communs avec les Russes. Je pense que ces sanctions sont totalement débiles avec la Russie, contre-productives. Je vous rappelle, en plus, totalement manipulées par les Américains. Pour vos auditeurs, les pommes, le commerce des pommes, par exemple, sont interdits. Les pommes sont sont un produit stratégique et militaire, comme chacun le sait. Mais le spatial, on peut coopérer. Pourquoi ? Parce que les Américains avaient besoin de la navette russe pour continuer, voilà. Donc le spatial, c'est pas militaire, mais les pommes, c'est militaire. Faut arrêter de se foutre de la gueule, faut arrêter de suivre les Américains dans tout. Par exemple, ce qui se passe en Iran est scandaleux, où on se couche une fois de plus devant les Américains, alors qu'il n'y a aucune preuve que les Iraniens ont violé cet accord. Voilà, moi je rêve d'une Europe indépendante. C'est pour ça qu'il faut un peu la revoir, une Europe qui soit ni allemande, une Europe qui soit ni américaine, ni française, mais une Europe qui existerait, qui aurait sa propre politique internationale. C'est pour ça que je me présente sur la liste de Jordan Bardella.
Bref, une Europe européenne, comme aurait pu dire le général de Gaulle. Et c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup Thierry Mariani, qui est candidat sur la liste du Rassemblement National conduite par Jordan Bardella, numéro 3, ancien ministre, ancien député à l'UMP.
Absolument.
Proche de Nicolas Sarkozy à l'époque. Merci Arnaud Benedetti,
merci.
La revue politique et parlementaire. C'était « Et si on en parlait ?» spécial élection européenne.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.